France Inter. Pierre Veille, le 6-9 de l'été.
Le siècle des dictateurs, c'est un livre qui vient de paraître aux éditions Perrin-Lepoint, 22 portraits de dictateurs du XXe siècle, écrits par des journalistes, des historiens, des diplomates, un travail collectif dirigé par l'écrivain et journaliste Olivier Guèze, prix Renaudot en 2017 pour son livre « La disparition de Joseph Mengele ». Il est l'invité du grand entretien en direct des studios de France Bleu Alsace à Strasbourg. Bonjour Olivier Guèze.
Bonjour.
Alors parmi les 22 portraits, il y a les plus connus, hein, Staline, Mussolini, Lénine, Hitler, Mao, Pol Pot, Pétain, Franco, Fidel Castro. Et il y a certains aussi dont on connaît moins bien l'histoire. Et là, dans ce livre, on découvre leur parcours. Pinochet au Chili, Mobutu, le Zaïre, Enver Hoxha en Albanie, les Duvaliers. Comment expliquer tant de dictateurs, Olivier Guèze, au XXe siècle ?
Alors, il y a toujours eu des dictateurs, hein, depuis l'aube de l'humanité, très régulièrement, des chefs se sont élevés pour diriger leur tribu d'une manière autoritaire. Après, le XXe siècle a engendré un certain nombre de dictatures pour deux raisons. Le premier facteur va se dérouler, la première vague, on va dire, se déroule en Europe, après la Première Guerre mondiale, qui transforme totalement les sociétés, qui anéantit quelque part des siècles de sociétés policés, civilisés, les grands empires disparaissent. Et de ce chaos naissent les premières dictatures. Donc évidemment, on pense à la révolution bolchévique fin 17, très rapidement la révolution fasciste en Italie au début des années 20, puis la révolution nazie au début des années 30, etc. etc. C'est-à-dire du chaos naît la dictature et naît le dictateur. Après la Seconde Guerre mondiale, c'est la deuxième vague en fait de ces dictatures qui va toucher essentiellement ce qu'on appellera à ce moment-là le tiers-monde, mis à part peut-être l'Europe centrale et orientale qui, elle, est sous la mainmise des soviétiques, qui imposent leur système politique et donc un nouveau système de dictature et de dictateurs. Dans ce qu'on appelle le tiers-monde, une nouvelle vague de dictature apparaît suite à la décolonisation. En gros, là aussi, le chaos, un système s'effondre, guerre civile, troubles, apparaissent des hommes forts. Et ces hommes forts, en fait, comprennent comment fonctionne la planète à ce moment-là, c'est-à-dire c'est la guerre froide. Et donc, à partir du moment où, quelque part, vous faites allégeance à l'un des deux super-grands, les États-Unis ou l'Union soviétique, eh bien, ce super-grand vous laisse les mains libres pour torturer, entre guillemets, votre population et laisse ces dictateurs s'enrichir.
Olivier Guèze.
Ces deux vagues.
Oui.
Les faits du XXe siècle étaient propices aux dictatures.
Les peuples sont-ils souvent responsables de l'arrivée au pouvoir des dictateurs ?
Quelquefois, bien évidemment, quelquefois, on pense à l'Allemagne nazie, hein, Hitler est élu, alors il a pas la majorité absolue en janvier 33, mais il est porté par le peuple allemand, il sera populaire. Mussolini aussi, hein, sera populaire dans les années 20, une partie des années 30. Pétain a été populaire, il n'a pas été élu directement, mais enfin il a eu quand même les pleins pouvoirs par l'Assemblée française. Donc quelquefois les peuples sont bien évidemment responsables. Et puis vous avez l'autre possibilité qui est celui du coup d'État, tels les bolcheviks qui sont ultra minoritaires en 17 et qui vont imposer leur marque très très rapidement. Donc il faut nuancer, ça dépend des pays, ça dépend des situations.
Olivier Guèze, une dictature peut-elle dans certains domaines avoir des résultats positifs? Vous savez que certains disent par exemple Saddam Hussein en Irak était un dictateur, Kadhafi aussi en Libye, au moins leur pays, je cite, était solide, leur éviction a entraîné le chaos.
Là aussi, il faut vraiment nuancer. On parle aussi des autoroutes à l'époque de Mussolini en Italie ou des autoroutes allemandes, etc., etc. Ce qu'il faut voir, c'est sur le moyen, sur le long terme. C'est vrai, en général, ces dictateurs ont un agenda économique de relance, en règle générale, de construction, travaux publics, etc. Mais assez rapidement, on voit bien que, un, l'économie déraille et que, d'autre part, deux exceptions, on les mentionnera peut-être, d'autre part, très rapidement, ces entreprises se dirigent vers des entreprises tout à fait extravagantes. Hitler pousse les Allemands à la Seconde Guerre mondiale, on connaît les conséquences. Mussolini également. En termes de gestion économique, l'URSS était totalement délirant et finalement l'URSS va finir par s'effondrer comme un château de cartes. Pareil pour Saddam Hussein qui va enchaîner les guerres contre l'Iran au début des années 80, puis contre le Koweït jusqu'à l'affaire du début des années 2000 et il va tomber. Donc on peut pas dire qu'il y ait des effets positifs. Peut-être à un moment, il y a effectivement une relance, mais globalement, il n'y a aucune rationalité. C'est l'une des marques aussi des dictateurs au XXe siècle, c'est que la plupart suivent leur impulsion, leur désir, oui, et ne mènent pas des politiques rationnelles.
Olivier Guez, la préface de ce livre, Le siècle des dictateurs, c'est vous qui l'avez signé, et vous analysez ce qu'est un dictateur, et tous ces personnages, finalement, ils ont des points communs. À l'origine, ils n'étaient rien ou pas grand-chose, hein, des illuminés, des marginaux, des passe-murailles, des ratés mythomanes.
Tout à fait. Ben, il faut regarder, justement, c'est l'intérêt de ce livre. Les contributions de mes excellents camarades montrent bien qu'en règle générale, tous ces hommes, d'ailleurs ce sont tous des hommes, hein, au XXe siècle, c'est intéressant, tous ces hommes viennent de milieux en général très défavorisés et en général, sans faire de la philosophie de comptoir, la psychologie de comptoir, excusez-moi, ont des problèmes avec leur père. Alors, soit ils n'ont pas de père, soit ils ont une relation extrêmement violente, et ce sont des gens qui, au départ, végètent, hein, sont effectivement des ratés, n'ont pas de carrière particulièrement brillante. Mais à un moment, l'histoire va faire que leur destin va basculer. C'est-à-dire qu'à travers les failles de l'histoire, à travers ce chaos dont je parlais au début de l'entretien, eh bien, tout d'un coup, une porte s'ouvre et une autre porte s'ouvre. Et ce sont en général de fins tacticiens, ce sont des gens malins qui savent jouer aussi, hein, avec les hommes qui les entourent, et à un moment, la porte du pouvoir va s'ouvrir. Et là, le XXe siècle est aussi un siècle de progrès considérable, et ces hommes vont pouvoir mettre la main sur ces instruments qui n'existaient pas auparavant, c'est-à-dire les médias, l'appareil économique, qui est très étatisé à l'époque, et à partir de là, ils vont pouvoir faire absolument n'importe quoi, et en général le pire.
Et vous écrivez que le dictateur, il ment tout le temps, impunément. C'est un auteur de fiction, c'est vrai, c'est un metteur en scène, un simplificateur, avec une propagande qui ne s'arrête jamais.
Jamais. Ouais. Il faut conditionner les hommes, les femmes, il faut faire peur, il faut donner envie aussi, donc on va faire miroiter un horizon exceptionnel. On ne parle jamais au conditionnel, on parle toujours à l'impératif, et ce sont de grands metteurs en scène. À la fois, ils racontent des histoires tout à fait farfelues, et de l'autre, par ailleurs, ils vont mettre en scène justement ces histoires. Ils vont mettre en scène leur pouvoir. Donc, on a tous en tête les images des congrès nazis à Nuremberg. On a tous en tête les images des défilés militaires sur la place de l'Armée Rouge, ou encore aujourd'hui en Corée du Nord. On se souvient aussi de la toque en fourrure de Mobutu et de ses guerriers parés de peau de léopard, etc., etc. Chaque dictateur, en fait, raconte sa propre histoire, invente une fiction et la met en scène. Et donc, selon les attitudes, les latitudes et les cultures, eh bien, on a ces grands spectacles. Ça fonctionne systématiquement comme ça à l'époque.
Les camps, c'est l'arme fatale des dictatures totalitaires.
Oui, alors il y a cet ouvrage fondamental, évidemment, d'Anna Arendt que j'ai relu à l'occasion de l'écriture de cette préface, Les origines du totalitarisme, et elle fait une distinction fondamentale entre le dictateur autoritaire et le dictateur totalitaire. Le totalitaire, c'est celui qui peut massacrer impunément sa population sans qu'il y ait de conséquences terribles sur l'équilibre de son régime. C'est-à-dire que lorsque vous avez un pays, on va dire, qui a 10-15 millions d'habitants, et que vous avez un dictateur à sa tête, ce dictateur est obligé de tenir compte d'une certaine limite de moyens de ressources humaines. Lorsque vous avez un dictateur qui est à la tête d'un État-empire comme la Russie soviétique, comme la Chine de Mao, comme l'Allemagne hitlérienne, à partir du moment où l'Allemagne attaque à l'Est et donc met la main sur des dizaines de millions de personnes, ces dictateurs totalitaires peuvent massacrer. Et donc ça, c'est la différence fondamentale entre les autoritaires et les totalitaires. Mmh. Et le fin du fin, entre guillemets, de ces totalitaires, effectivement, ce sont les camps de concentration. Ce sont les camps de travail, ce sont les camps d'extermination. Et là aussi, on a tous en tête, bien évidemment, les camps de concentration, extermination allemands, le Goulag soviétique ou les Laogai chinois.
Olivier Guèze, deux dictateurs mentionnés dans ce livre sont toujours au pouvoir, hein, Bachar el-Assad et Kim Jong-un. Là, c'est le phénomène de la dynastie des dictateurs.
Oui, ce sont les fils de leur père. En Corée du Nord, c'est la troisième génération, depuis le grand-père, hein, depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec la guerre de Corée. Bien, vous avez une même famille qui dirige la Corée. Et puis, bien évidemment, la Syrie, dont on parle malheureusement beaucoup trop depuis presque 10 ans, Bachar étant le fils de son père, lui aussi, et dans la lignée de son père, peut-être pire.
Olivier Guèze, en Europe, nous avons des démocrates illibéraux aujourd'hui au pouvoir. Est-ce qu'on peut dire qu'ils sont d'une certaine façon des fils spirituels des dictateurs du XXe siècle, parce que ils proposent, comme le font les dictateurs, des solutions ultra simples, simplistes, à des problèmes qui sont de plus en plus compliqués?
Je dirais, heureusement, pas encore, ou pas. Parce que là, ce qui fait la caractéristique de ces dictateurs au XXe siècle, ce sont quand même des dizaines de millions de morts, ou pour les moins terribles, on va dire quand même des dizaines de milliers de victimes. On n'en est pas là, je veux dire, Orban n'a jamais organisé la déportation de qui que ce soit pour l'instant. Salvini boit des mojitos sur la plage à Milano Marittima, mais n'a pas encore fait déporter qui que ce soit, en tout cas en masse. Donc, pour le moment, on peut pas dire ça. Il y a une tentation autoritaire, c'est très clair, parce que l'Europe d'aujourd'hui vit une crise de modernité, comme on en a vécu à la fin du 19e et dans les années 20, dans les années 30, c'est les révolutions industrielles. Mais on n'en est pas encore assez à ce qu'on peut appeler vraiment, tel qu'on l'a défini dans ce livre, hein, ce ne sont pas des dictateurs, fort heureusement. Les temps ont changé aussi. Donc il faut nuancer, je pense. Il ne faut pas employer ce mot à tort et à travers, ce qu'on a tendance à faire de nos jours, malheureusement.
Dans la préface de ce livre, Olivier Guèze, Le siècle des dictateurs, vous estimez qu'un autre type de dictateur est né, c'est l'empire des réseaux sociaux. Pourquoi ?
Eh bien, on le voit. Ce sont des empires qui n'ont pas de capitale, qui n'ont pas de territoire géographique, mais qui dominent quand même 2 milliards d'individus. C'est considérable. Aucun empire n'a jamais dominé 2 milliards de personnes. Ces gens savent tout de nous. C'est simple, hein. À partir du moment où on met des photos, à partir du moment où on va exprimer une opinion politique, etc. Donc, non seulement ils savent tout. Ensuite, ils ont une tentation d'émancipation qui leur permettrait d'échapper totalement aux politiques. Je pense à l'idée de Facebook de créer une monnaie autonome. Ces gens-là ne payent pas l'impôt, en tout cas se débrouillent pour ne pas payer l'impôt ou payer un minimum d'impôt. Donc, quelque part, ils ne respectent pas leur devoir de citoyen. Et puis, il y a une autre dimension qui, pour moi, est terrible. C'est la dimension culturelle de ces réseaux. C'est-à-dire que, par exemple, si on prend Facebook, qui est le plus populaire de tous, il y a un code esthétique, il y a un code culturel. Monsieur Zuckerberg a décidé, par exemple, qu'on ne pouvait pas montrer un sein sur ces réseaux. Mais par contre, on peut trouver des vidéos de décapitation, des vidéos d'extrême droite, etc., etc. Et il y a quelque chose que je trouve, il y a une tentation véritablement autoritaire, voire totalitaire de ces réseaux qui changent par ailleurs la nature humaine. Et ça, c'est un phénomène tout à fait nouveau, bien évidemment, du 21e siècle. Et j'ai voulu aussi le signaler dans ma préface, dans mon introduction, parce que on voit que ça a déjà des conséquences politiques. Je pense que le Brexit n'aurait pas eu lieu, probablement. Je pense que l'élection de Trump n'aurait pas eu lieu sans les réseaux. Puisque la façon dont fonctionnent ces réseaux, finalement, l'abonné, entre guillemets, est encerclé, ne peut pas sortir d'une façon de penser. Et je pense que c'est extrêmement dangereux, et notamment le respect de la vie privée et tout ce que ces réseaux savent sur nous.
Olivier Guèze, des questions pour vous au standard 01 45 24 7000. Geneviève nous écoute, elle est en Haute-Savoie. Bonjour Geneviève.
Oui, bonjour à vous. Voilà, moi je me posais la question de savoir s'il y a des dictateurs. C'est vrai que votre invité parle beaucoup de mensonges, donc de conscience, quoi, quelque part. Mais je voulais savoir s'il y a des dictateurs qui peuvent être vraiment comme des gourous illuminés, complètement mythomanes, qui croient vraiment à ce qu'ils annoncent. Voilà, comme on voit un petit peu l'évolution dans le film La Vague. Ou est-ce que ce sont des gens qui ont vraiment conscience de manipuler grâce à leur charisme, tout ça? Est-ce qu'il peut y avoir des... Il y en a qui peuvent vraiment croire à ce qu'ils annoncent?
Olivier Guèze.
Alors il y a un peu des deux. Le dictateur n'est pas seulement cynique. À la fois c'est un auteur de fiction, mais on voit bien aussi, en tout cas on a aussi tous en tête cette idée de nouvelle religion quelque part dans toute l'Union soviétique, dans tout le camp socialiste jusqu'en 1989-90. Vous avez eu des centaines, des milliers de statues de Marx, de Staline, de Lénine. Staline n'a pas duré nécessairement très longtemps. Il y a une véritable envie de créer une religion civique. Et l'une des choses qui m'a le plus frappé en travaillant à cette préface, c'est que ces dictateurs charismatiques qui créent des religions, finalement, apparaissent quelques décennies seulement après la mort proclamée de Dieu, notamment en Europe. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de vide, et ces dictateurs vont tenter de combler le vide. Et donc à la fois, ils croient à leur mission messianique, et d'un autre côté, ils sont aussi extrêmement cyniques, et ils savent comment fonctionne l'humain. Donc vous avez un mélange à la fois entre leur envie et leur croyance sincère. Je veux dire, Hitler était sincèrement convaincu de mettre en place un Reich de 1000 ans. Mais d'un autre côté, il sait très bien comment ça fonctionne, et donc il y a un mélange de cynisme et de mégalomanie absolue.
Dominique à Paris, bonjour Dominique.
Oui, bonjour.
On vous écoute, Olivier Guèze vous écoute.
Oui, bien, bonjour. Ma question est la suivante. Bonjour Monsieur Guèze. Ma question est toute simple. J'ai entendu dans la liste qui a été énumérée des ce que vous appelez les dictateurs, j'ai entendu le nom de Fidel Castro parmi eux, et moi, j'ai juste une question à vous poser. Je suppose que vous connaissez les conditions dans lesquelles vit la population cubaine et à quoi elle doit cette vie. Je pense que vous avez entendu et que vous connaissez le mot blocus. Et expliquez-moi comment un pays se voyant imposer un blocus qui est plus qu'un simple... une simple opération de sanction. Oui. De quel droit un État extérieur impose un blocus, et le qualifieriez-vous donc, les USA en l'occurrence, de dictature, puisque c'est une dictature qui est imposée. C'est un diktat imposé à Cuba.
Réponse d'Olivier Guèze sur Fidel Castro.
Moi, je suis écrivain, j'ai dirigé, j'ai préfacé cet ouvrage, donc je ne suis pas un spécialiste de l'histoire cubaine. Il y a, à mon sens, il y a deux choses concernant Cuba. Il y a effectivement la politique américaine vis-à-vis de l'île qui ne voulait pas, et ça peut se comprendre, d'une espèce de satellite soviétique à quelques centaines de kilomètres, même pas des côtes américaines. Ça, c'est une chose, donc ils ont organisé ce blocus. Deuxièmement, il y a aussi la nature du régime castriste. Et très rapidement, Castro a montré que c'était un excellent dictateur. C'est-à-dire qu'il va supprimer toute forme d'opposition. Il va y avoir une forme de culte de la personnalité qui est un peu plus intelligent que les autres cultes de la personnalité. Et on va surtout faire monter la figure iconique du Che à partir du moment où il disparaît. Et vous avez une mainmise sur le politique, sur l'économique. Et donc, vous avez un cas de figure assez classique du dictateur. Donc, effectivement, le blocus n'a peut-être pas aidé, ou en tout cas a renforcé, même probablement le pouvoir de Cuba, de Castro à Cuba. Mais d'un autre côté, Castro avait déjà toutes les caractéristiques d'un dictateur moderne au XXe siècle. Donc il faut bien séparer les deux.
Dimitri écoute France Inter et souhaite interroger Olivier Guèze, qui donc a dirigé cet ouvrage qui paraît chez Perrin Le Point, Le siècle des dictateurs. Dimitri, bonjour.
Bonjour monsieur.
Allez-y.
Ben écoutez, d'abord, je voudrais vous remercier pour vos émissions. Et puis, demander ceci à monsieur Guèze. La Chine actuelle, avec la reconnaissance faciale, l'écoute de tout le monde, Tiananmen, etc., est-ce qu'il la considère ou pas comme une dictature? Parce que, contrairement aux autres dictatures, celle-ci, son plan économique, réussit bien, je crois.
Olivier Guèze.
C'est intéressant ce que vous dites. Oui, bien évidemment, je considère la Chine comme une dictature. Et dans le livre, il y a un chapitre tout à fait éclairant sur Mao, sur la Chine de Mao. Et par ailleurs, moi, je termine ma préface sur la Chine, où je suis allé à l'automne dernier, et j'ai été frappé effectivement par comment cet État, cette dictature totalitaire typique du XXe siècle a réussi à se transformer et à devenir une dictature au XXIe siècle incroyablement fonctionnelle. C'est très impressionnant puisque vous avez ce mélange finalement de contrôle classique qu'on connaissait déjà au XXe siècle avec la pointe des nouvelles technologies du XXIe siècle. Et donc, vous avez la Chine est le seul État, la seule dictature totalitaire à avoir réussi sa transformation sans s'effondrer. C'est évidemment le contraire de l'Union soviétique qui a disparu il y a presque 30 ans maintenant.
Olivier Guèze, les dictateurs, à un moment donné, ils s'effondrent. Pour quelles raisons le plus souvent ?
Alors ça dépend, là aussi, les différents chapitres le montrent, soit simplement par usure, et certains vont mourir dans leur lit, les dictateurs, je pense à Franco, soit ils se lancent dans des entreprises guerrières totalement aberrantes, et le système et eux-mêmes finissent par s'écrouler, par disparaître, Mussolini, Hitler, etc. Et puis simplement, à un moment, ils servent plus à rien. Ils servent plus à rien, et là c'est le cas de tous, c'est une bonne partie en tout cas des dictateurs qui sont nés avec la guerre froide, et à partir du moment où la guerre froide se termine, à la fin des années 80, eh bien des gens comme Mobutu, Marcos n'est pas dans le livre, aux Philippines, Stroessner au Paraguay, eh bien en fait ne servent plus à rien. Et donc un nouveau processus politique se met en place, et là-dedans on peut aussi également inclure évidemment tous les dictateurs du bloc de l'Est en Europe, qui sont balayés ou qui simplement ne servent plus à rien et sont lâchés à un moment. Donc à chaque fois, ça, il faut. Et puis il y a des révolutions, comme en Libye avec Kadhafi, ou parmi les entreprises guerrières aberrantes, on peut évidemment penser à Saddam Hussein qui finit dans un trou, ouais. Puis jugé, puis pendu.
Dernier appel, Laurent est à Metz. Bonjour Laurent.
Bonjour Pierre. Je posais la question du lien inévitable entre les pouvoirs, les puissances d'argent et la montée des dictatures qui ont besoin d'un soutien financier. Des fois, ils sont manipulés par ces puissances d'argent dans un but de suprématie économique. De l'autre, comme Hitler, il a utilisé les aristocrates et les industriels allemands qui étaient des revanchards de la Première Guerre mondiale et qui pensaient qu'ils allaient en faire ce qu'ils voulaient. Et finalement, c'est lui qui a repris le dessus. Donc voilà, aujourd'hui, le lien, c'est peut-être ça aussi, c'est que les gens qui ont cette soif de pouvoir économique, psychologiquement, sont très proches des gens qui sont prêts à prendre le pouvoir politique et tout imposer.
Merci Laurent, on n'a plus beaucoup de temps sur ces points évoqués par Laurent. Olivier Guèze.
Alors, je veux dire, pour moi, le capitalisme n'a pas de couleur. C'est-à-dire qu'il peut s'adapter à toutes les couleurs. Que le pouvoir soit noir, rouge, vert ou que sais-je, eh bien, le capitalisme, en général, va s'adapter au pouvoir. Ce que montre bien le livre, les différents chapitres, c'est qu'au départ, ces gens ne sont pas du tout des liés au grand capital. Simplement, à un moment, comme ils s'approchent du pouvoir, ou lorsqu'ils sont au pouvoir, eh bien, effectivement, le grand capital va, à un moment, devoir se poser la question comment est-ce qu'on fait pour continuer à faire nos affaires dans ces pays. Mais au départ, c'est pas une pulsion du grand capital. Ce n'est pas le grand capital qui va porter Hitler au pouvoir. Évidemment, les bolcheviks, c'est tout à fait le contraire. La Chine également. Et tous les dictateurs de ce qu'on appelait le tiers-monde, les Duvalier, les Mobutu, etc., au départ, on l'a dit, viennent de conditions extrêmement modestes. Donc, ce n'est pas le capital au départ, mais simplement le capital, eh bien, est un caméléon. Et donc, s'adapte, simplement.
Merci Olivier Guèze. Je rappelle ce titre que vous avez, ce livre que vous avez dirigé, livre passionnant, Le siècle des dictateurs, 22 portraits de dictateurs, c'est paru aux éditions Perrin Le Point.